Ah, j'ai comme le goût d'y aller plus YOLO avec celle-là. Je suis dans ma petite chambre à Sotune. Il y a de la neige toute mouillée qui tombe. Et je viens vous présenter un nouvel épisode de podcast des Amis des Vers de Terre. C'est une discussion que j'ai eue avec deux amis fermiers et fermières à propos du fait de démarrer une ferme ou de reprendre une ferme familiale, dans le cas de Mégane. On a parlé de plein de choses, on a parlé d'agriculture régénératrice, on a parlé de cannabis, on a parlé de la certification bio, puis je trouve qu'ils ont vraiment bien expliqué c'est quoi le quotidien d'un agriculteur ou d'une agricultrice aujourd'hui au Québec. Puis ça me fait plaisir parce que je sens que je me rapproche de l'objectif initial du podcast qui était justement de faire rayonner la parole des gens en agriculture, puis peut-être de rapprocher un peu le monde rural, agricole, du monde plus urbain, de Montréal ou de n'importe qui s'y connaît pas nécessairement, en agriculture, mais qui a envie d'en apprendre plus. Donc, je suis très contente de ce que ça a donné. J'espère que vous allez apprécier aussi. Et je voudrais évidemment remercier Emploi Québec qui nous permet d'enregistrer, ces épisodes. Alors, bonne écoute! Une aventure. OK, ben on va commencer. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Les Amis des Vers de Terre. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir deux agriculteurs et agricultrices. J'ai avec moi Mégane Patch de la ferme Patch. On vient d'apprendre qu'elle est la sixième génération de sa famille à travailler sur la ferme, puis elle a commencé en 2012. Puis tu es aussi enseignante dans la vie. Bienvenue.
Merci.
Merci de nous recevoir en plus dans ta super maison avec la belle vue. Vraiment belle grange. Moi, j'ai un peu un thing pour les grosses granges, puis celle-là, quand je suis arrivée. Et je suis aussi avec Aurélien Pochard, qui travaille au Jardin des Chats Noirs, qui a cofondé les Jardins du Chat Noir en 2017. Puis vous êtes maintenant quatre associés, puis qui a plein d'autres projets qui s'en viennent. Bien, allô Aurélien.
Bonjour.
Puis je vous ai rassemblés pour cet épisode pour parler d'agriculture. Là, on rentre encore plus dans le vif du sujet, mais plus précisément aussi de l'idée de commencer une ferme. En fait, tous les deux, vous vous êtes lancés dans l'aventure. Aurélien, t'avais pas vraiment, ben, pas une très grande expérience en agriculture avant ça.
Plusieurs années sur des fermes pour nous former, effectivement, un passage à l'école en horticulture, mais non, effectivement, je viens pas d'un milieu agricole, j'ai grandi essentiellement en ville.
Ok, en France.
En France. Je suis au Québec depuis à peu près 10 ans.
Ouais. Puis Mégane, toi, c'est ça, une ferme familiale, donc c'est un peu un contexte différent de démarrage. Je sais pas s'il y en a un des deux qui veut commencer juste par raconter brièvement comment vous vous êtes retrouvés là ou un peu l'historique ou...
OK, je pourrais recommencer. Mais dans le fond, moi, ma participation dans le ferme a commencé en 2012 suite au décès de mon père. Il n'y avait pas de plan de succession. Puis, alors j'ai pris en charge le troupeau avec ma mère et c'est là où il y a parti un genre d'évolution dans notre approche en production de bœuf parce que j'ai vite réalisé que je ne pourrais pas continuer à pratiquer l'agriculture de la même manière que mon père l'a fait.
Dans quel sens?
Ben lui était mécanique diesel par formation. Alors, il était capable d'entretenir la machinerie. C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'expérience avec la machinerie, ce que j'avais pas. J'en faisais quand même, mais lui, il coupait le foin un peu partout dans la région pour les bœufs. Et j'ai vite réalisé que ça serait pas possible. Puis c'était en 2013, en effet, que j'ai découvert Joel Salatin, qui est l'inspiration de plusieurs dans la production écologique. Et j'ai beaucoup aimé son approche. Alors, j'ai été visiter sa ferme en 2014 avec ma mère.
Sa ferme, lui, il est aux États-Unis.
Oui, c'est en Virginia.
OK.
Alors, on a été capable de voir pour nous-mêmes le fonctionnement, le setup. Puis c'était vraiment bien. Ça m'a beaucoup inspirée. Et c'est de là que j'ai commencé à faire des changements doucement ici, chez nous.
Qu'est-ce que ça serait quoi pour des gens qui connaissent pas nécessairement son approche, lui, vraiment écologique? Les quelques premiers changements, par exemple, que tu as fait par rapport aux méthodes. Fait que là, on parle de bœuf vraiment à viande.
Oui, c'est ça. C'était une production de vaches-veau. Alors, mon père, il faisait l'élevage de veaux destinés aux encans. Alors, c'est des veaux qu'on sèvre à peu près 6 mois, puis après ça, ils sont vendus aux encans. Mais, puis c'était quand même assez naturel, son approche, mais il y avait quand même des choses qui étaient un peu plus conventionnelles, comme l'application de vermifuges vétérinaires, puis des choses comme ça. Alors, une des premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté d'utiliser les vermifuges. Parce que les vermifuges chimiques peuvent... ça fait en sorte que il y en a quand même qui sortent dans le fumier de l'animal, puis ça peut... affecter la vie microbiale qui existe dans le fumier d'un vache. Puis il y a quand même un... Ça peut impacter en effet la santé des sols dans le fond.
L'eau à la vie dans le sol.
Parce que les organismes sont complémentaires, mm-hmm. Oui.
Puis qu'est-ce que vous faisiez avec le fumier d'ici?
Ben le fumier qu'on a ici, soit qu'on les... Bien, on les pend sur les terres, mais l'autre approche que j'ai adoptée dans la gestion du troupeau, c'est vraiment plus une gestion des pâturages. Alors, en effet, c'est le fait de donner aux bœufs moins d'espace à la fois pour brouter, puis le fait de les concentrer sur un plus petit parcelle, bien, ça concentre le fumier puis l'urine, alors ça concentre les nutriments. On les laisse pas là longtemps. Alors, ça fait en sorte qu'ils mangent moins, ils mettent moins de pression sur les plantes fourragères. Et ça permet aux plants de garder quand même une bonne partie de leur feuillage pour pouvoir repousser.
Mm-hmm. Et capter du carbone. Je pense que c'est aussi là l'intérêt de toute cette approche-là, de faire des rotations finalement. Mm-hmm. Ça fait que les plantes sont mangées puis repoussent très vite. En tout cas, c'est... Mais quelques bases dans toute la question des pâturages, là, mm-hmm. mais c'est une question, je pense, dont on va entendre de plus en plus parler mm-hmm. dans les prochaines années.
Oui.
Fait que les vermifuges...
Alors, c'était les vermifuges. Puis en enlevant les vermifuges, puis j'ai été capable de voir exprimer plus les tendances des animaux, parce que si on applique des vermifuges, bien, on ne peut pas savoir quels animaux sont susceptibles aux parasites. Alors, j'ai été capable de faire une meilleure tri des animaux pour pouvoir concentrer les génétiques puis pouvoir vraiment sélectionner des animaux qui vont fonctionner comme il faut dans un environnement plus naturel.
Cool.
Dans un contexte naturel. Alors, il y a ça, il y a la façon de gérer les terres pour avoir un meilleur rendement de foin.
Puis vous avez d'autres animaux maintenant, c'est ça que tu racontais.
Bien, ce qu'on fait aussi de la production saisonnière d'autres animaux. Alors, on fait venir des poulets, des poules à chair, des dindes, puis des porcs. Puis on fait la finition au pâturage l'été. Puis à l'automne, bien, c'est fini. Mm-hmm. Ouais.
Puis Aurélien, toi finalement, tu pars, c'est un autre début d'histoire complètement... c'est quoi qui a fait... Parce que je sais que dans la bande dessinée, je l'ai pas dit dans l'introduction, mais Aurélien et Amélie des Jardins du Chat Noir font la page couverture d'un livre qui s'appelle Les Nouveaux Paysans, qui est une bande dessinée sur toutes sortes d'agriculteurs dans le coin qui font des trucs vraiment chouettes. Puis il y a une partie qui explique justement que vous partiez du milieu du spectacle, pas du tout lié à l'agriculture.
Exact.
Qu'est-ce qui vous a dirigé là-dedans?
Mais écoute, nous, on a travaillé pendant des années dans le milieu du spectacle. Amélie, essentiellement à Montréal. Moi, j'étais à Paris avant de déménager au Québec. On s'est rencontrés à un moment de notre vie où on avait envie d'un changement un petit peu. Puis ce changement, pour nous, passait par déménager à la campagne. Être un petit peu plus proche de la nature, de l'extérieur. On avait une parcelle de jardin communautaire à l'époque. Puis on savait très bien qu'en déménageant à la campagne, il allait falloir changer de carrière. La campagne ne se prête pas du tout au genre de carrière qu'on avait. Donc on savait qu'il allait falloir un changement. Donc on s'est beaucoup posé la question. Pendant un moment, on se demandait si on n'irait pas en aménagement paysager comestible, qui était une tendance vraiment à ses débuts à Montréal à l'époque. Mais c'est vraiment la campagne qui l'a emporté. Donc l'idée de vouloir aller vers des plantes, de faire de l'horticulture, s'est transformée finalement en projet de maraîchage biologique, qui était aussi quelque chose qu'on commençait à voir beaucoup plus dans les médias comme étant une option de carrière. Faut le savoir quand même, quand on grandit en ville, une carrière agricole, c'est pas vraiment présenté en général comme un choix possible, rentable, souhaitable. C'est...
Ben, y a toute la question de l'accès à la terre déjà, si tu peux pas t'acheter un terrain pour faire de l'agriculture.
Bien sûr. Puis il y a aussi une dynamique, absolument, complètement d'accord. Puis il y a aussi une dynamique là-dedans qui est, il y a beaucoup de gens en ville qui viennent, alors pas nécessairement de la deuxième génération, mais de la deuxième, troisième, quatrième génération de gens qui ont quitté la campagne. Moi, je peux donner l'exemple de ma famille. Il faut remonter 3 générations en arrière pour trouver des agriculteurs avec mes arrière-grands-parents. Mmh. Mes grands-parents ne l'étaient déjà plus. La génération de ma mère, donc tous mes oncles et tantes, sont tous partis soit faire des études en ville, soit travailler ailleurs qu'en agriculture. Et aucun d'entre eux n'est revenu à la terre. Moi, je suis la première génération qui, peut-être parce qu'il y avait une distance, a commencé un petit peu à rêver l'agriculture et à fantasmer un peu sur l'agriculture, puis à se dire qu'il y avait peut-être un retour possible. Et puis, on est mine de rien maintenant dans une époque où tous les circuits courts, les paniers bio livrés en ville, tout ça, ça recrée un lien entre l'agriculture et la ville qui relaisse penser à des urbains que ce serait peut-être une option d'en faire un métier.
Consommais-tu des paniers de légumes quand tu habitais à Montréal?
Absolument. Puis j'en entendais de plus en plus parler. Donc quand nous, on est allé se former en horticulture, Amélie a fait un stage à la ferme Tournesol, qui est une des super fermes de légumes bio à l'ouest de Montréal. Et pour elle, ça a été vraiment le déclic de « Ok, je veux faire ça de ma vie ». Donc l'année suivante, on s'est fait engager tous les deux. On est allé prendre nos marques, apprendre à travailler sur une ferme de légumes. Puis après, de fil en aiguille, on est allé un petit peu d'une ferme à l'autre. Donc chaque année qui passait, on passait une saison, tous les deux à chaque fois, dans une autre ferme. Donc on apprenait le métier, on apprenait à travailler ensemble dans ce contexte-là, ce qui nous a donné confiance au bout d'un moment pour chercher un terrain qu'on a trouvé à Bedford, proche de Dunham-Frelicksburg. Et puis finalement, de démarrer notre entreprise, on a commencé à travailler sur le terrain en 2015. On s'est donné 1 an et demi pour le préparer.
Parce que ce terrain-là, il n'était pas tout de suite prêt.
Oh non, c'était un champ. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'eau, pas de puits, pas d'électricité, rien du tout. On est parti vraiment d'une page blanche. Le terrain n'était pas non plus convertible en bio tout de suite parce que la personne qui cultivait avant nous avait utilisé des pesticides. Donc on est vraiment parti de rien pour monter l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis maintenant, on est rendu avec 2 nouvelles associées qui nous ont rejoints progressivement l'année dernière. Mmh. Donc on est 4 associés dans l'entreprise. Ce sera 3 à temps plein. Moi, je me détache un peu progressivement pour d'autres projets. Mais c'est ça. Ça a été vraiment un démarrage à partir de zéro.
Puis vous avez retravaillé sur votre sol aussi, de ce que j'avais lu dans la qualité de... Il y avait une bulle qui disait... Ah bon, il faudrait que je le retrouve, mais la terre a manqué d'amour.
Ben, essentiellement, c'est à ça qu'on faisait référence. Ça faisait référence au fait que l'agriculteur qui nous a précédés... C'est une terre qui a principalement été utilisée pour de la production de foin pendant au moins 50-60 ans. Comment le foin a été produit, je ne sais pas exactement. Est-ce qu'il a été juste coupé et exporté à chaque fois? Tout ce que je sais, c'est que quand on est arrivé, les analyses de sol étaient extrêmement basses, le drainage n'était pas optimal. Et on a su que l'agriculteur qui nous précédait avait pendant quelques années fait de la culture de légumes, mais avec pesticides chimiques, herbicides et tout ce qui vient avec en général. Donc nous, on avait un petit peu ce mandat, un petit peu de retravailler le sol, de le récupérer, puis de le rebâtir un petit peu. Chose qu'on fait progressivement, mais c'est long.
Comment on fait pour guérir un sol?
En fait, déjà, arrêter d'utiliser des produits chimiques, ça, c'est la première étape. Hein. On voit déjà tout de suite qu'il y a le terrain répond immédiatement, mais il faut le faire. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment essentiel. Après ça, il y a des pratiques, notamment ce qu'on appelle les engrais verts, donc cultiver des plantes qu'on va ensuite retourner au sol pour améliorer sa structure et le nourrir. Essentiellement, c'est remettre de la matière organique dans le sol, vraiment. Mais remettre de la matière organique, ça ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à travailler ou même ne pas travailler le sol pour le laisser reconstruire une structure. Et ça, c'est très important. Ce qui est un défi, je pense, en maraîchage.
Puis
parce
ce qui n'est pas, justement, en maraîchage, ce qui n'est pas nécessairement une habitude ou dans toute forme d'agriculture, il y a cette idée de, même pour un urbain, même pour des gens qui ne s'y connaissent pas en agriculture, tu te dis, oui, il y a un gros tracteur, ça passe, puis ça laboure, puis c'est comme ça qu'on fait.
Oui,
puis...
alors, il y a peut-être d'autres facilités un petit peu par rapport au fait de reconstruire un sol. Je pense au contexte de Mégane, par exemple, qui travaille avec des pâturages. Je pense que son contexte à elle lui permet peut-être plus d'aborder la reconstruction du sol. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mégane.
Oui. C'est sûr que si on fait principalement du pâturage, puis on ne fait pas de céréales, on travaille en effet avec des vivaces. Mm-hmm. Alors, je pense que c'est probablement un défi spécial quand on fait la culture, parce que...
Parce que finalement, quand il y a des animaux dans un pâturage, ils font aussi un travail de fertilisation puis de toutes sortes de travail que finalement les machines ne font pas.
Bien, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça amène des nutriments. Puis la structure est conservée. Alors, quand il faut défricher, c'est ça où on a de la misère. Puis c'est sûr que ça arrive des fois que le monde qui font soit le foin ou même qui ont des champs de pâturage, des fois, ils vont refaire les pâturages en labourant les sols. Dans le conventionnel, d'habitude, c'est à chaque 5 ans. Mais sont de différentes opinions, dans le fond. Ça dépend de ce que tu veux faire pousser puis la manière que tu vas aller chercher de différentes espèces. Alors, c'est très différent, dans le fond.
Le point, en fait, commun dans plusieurs des épisodes du podcast, c'est vraiment la notion d'écosystème. T'sais, moi, je me suis mis à me renseigner sur la vie dans le sol grâce aux vers de terre, grâce à toute une longue histoire. Puis, en étudiant les vers de terre, je me suis mis à entendre parler de toutes les champignons. Toi, tu fais pousser des champignons aussi sur ta ferme. Après ça, toute la micro-organisme. Puis comment tout ce petit écosystème-là de vie, on l'avait oublié, en fait. Puis on l'avait perturbé, puis on avait oublié de faire de l'agriculture en pensant à nos écosystèmes. Qu'est-ce que vous avez appris sur les écosystèmes en faisant... L'agriculture, je me rappelle, Aurélien, la première fois que je suis venue sur la ferme, tu m'avais parlé d'une parcelle, tu as dit « ça, c'est notre parcelle de biodiversité. Quand on est arrivé ici, on l'a laissé, puis là, maintenant, il y a des papillons, puis il y a des choses qui viennent. » Puis tu sais, ça avait l'air d'être comme un truc que tu avais appris finalement qu'il fallait conserver. Mais
moi, ce que j'ai appris de plus important vraiment en travaillant la terre, vraiment en étant en contact avec le sol et avec tous les différents processus, moi, ce que je retiens et ce qui est le plus important, c'est le concept de succession. C'est-à-dire que si on prend une parcelle, qu'on décide de la faucher et de retourner, de travailler le sol, en fait, de la mettre à nu, et qu'ensuite, on ne fait plus rien, on va pouvoir observer ce que fait la nature pour réparer un sol. On dit toujours que la nature a horreur du vide, et c'est complètement vrai. La nature est là pour remplir des endroits qui sont essentiellement minéraux et les transformer en lieu de vie, en accumulation de matière organique et surtout, comme on dit, en écosystème. Donc, dans un contexte comme le Québec, évidemment, ce qu'on verrait si on décidait de fonctionner en accéléré, c'est que si jamais, je prends un exemple, si jamais je prenais mon tracteur, que j'allais faucher et travailler le sol à côté... sur une de nos parcelles, et que je décidais de le laisser comme ça et de l'observer consciencieusement pendant les 50 prochaines années. D'abord, ce serait fascinant. En fait, je pense que je vais le faire. Et ensuite, ce qu'on verrait, en fait, c'est que dans un premier temps, le sol resterait pas nu longtemps. Dès la deuxième année, on verrait pousser ce que les gens appellent communément des mauvaises herbes. Donc, en fait, essentiellement au début des plantes annuelles, des plantes dont les semences sont déjà présentes en très grande quantité dans le sol et qui vont pousser, faire une biomasse assez rapide, faire leur cycle de vie en une année, faire leurs fleurs, faire leurs graines, laisser leurs résidus et les graines au sol et qui préparaient en fait la deuxième année pour voir encore d'autres plantes pousser. Mais à mesure qu'on avance dans une succession, on voit de moins en moins de plantes annuelles et de plus en plus de plantes vivaces. Et donc, les plantes vivaces, parce qu'elles restent dans le sol, que leurs racines restent vivantes pendant l'hiver, elles vont commencer à nourrir d'autres sortes de micro-organismes. Et on voit apparaître dans le sol, en fait, une complexité qui passe d'un milieu de vie très, très bactérien, parce que les bactéries sont très rapides et très efficaces à digérer de la matière tendre et fragile comme des annuelles, à progressivement un sol qui est de plus en plus propice à des champignons. Parce que les champignons, eux, survivent un petit peu plus sur du long terme et se nourrissent de matières plus carbonées. Mmh. Donc à mesure, on voit en fait cette tendance à aller vers le carbone. Puis après les plantes vivaces, on commence à voir des arbustes intervenir. Après les arbustes, on commence à avoir des arbres, souvent ce qu'on appelle des arbres pionniers, donc des saules, des bouleaux, des aulnes, des peupliers, des arbres qui vivent en fait assez peu de temps comparativement aux autres, mais qui sont très importants pour préparer le terrain. Et à mesure que ça continue, si vous suivez encore dans le temps, puis là on est rendu peut-être à 10-15 ans, on se retrouve avec une friche de bouleaux, de peupliers, ce genre de choses. Donc c'est des arbres très compétitifs, très rapides à pousser. Mais à mesure qu'ils poussent, ils vont en fait, tout simplement par leur présence, créer de l'ombre. Et les graines de peupliers, de bouleaux, de saules sont très très efficaces en plein soleil, mais quand il y a de l'ombre, c'est pas leur milieu. Donc c'est paradoxal, ce sont des plantes qui, à mesure qu'on avance dans le cycle, créent un environnement qui n'est plus propice à leur descendance. Mais ce qu'on voit apparaître dans ce contexte-là, ça va être des arbres qui, eux, sont capables d'attendre à l'ombre, comme des chênes, comme des hêtres, comme des érables. Et eux peuvent patienter en dessous des peupliers, ils peuvent patienter en dessous des saules. À chaque fois qu'il y a une trouée, ils prennent la place, ils prennent de l'envergure. Mais une fois que les chênes, une fois que les hêtres, une fois que les érables sont en place, on commence à voir ce qu'on appelle une forêt.
Mmh.
Et en dessous de cette forêt, exactement. Et ça, ça va être ce qu'on appelle un écosystème plus stable quasiment, parce qu'en dessous de ces arbres-là, il n'y a plus de place pour les peupliers, il n'y a plus de place pour les saules, pour les bouleaux, il n'y a pas assez de lumière. Mais il y a assez de place pour que la descendance des érables, des chênes, des hêtres, attende encore une fois à l'ombre. Et dès qu'un arbre est trop vieux, qui tombe, qui a un coup de vent, mais les suivants sont prêts à prendre la place. Et là, on a un écosystème qui devient stable, qui s'établit.
Et dans cette forêt, il y a aussi de la vie sous le sol. Après, il y a des oiseaux. Après,
énormément. Alors, les oiseaux, les insectes n'attendent pas, évidemment, qu'on ait une forêt mature pour s'établir, mais les populations changent. Donc ça, c'est un très important, ce concept de succession, parce que l'agriculture se place toujours à différents stades de succession. Si vous êtes en maraîchage et que vous travaillez le sol tous les ans pour cultiver des plantes annuelles, vous restez dans les premiers stades de succession. C'est souvent là qu'elle est la difficulté de rebâtir des sols en maraîchage, c'est qu'on est tout le temps en train de revenir à zéro un peu. Alors que, mettons, Mégane, avec des animaux en pâturage, ben, elle est à un stade plus avancé et plus complexe de la succession parce qu'elle travaille avec des herbes et des plantes vivaces. Des gens qui sont en verger sont un petit peu plus loin parce qu'ils travaillent avec des arbres. C'est très rare de trouver des systèmes agricoles qui sont dans des systèmes matures comme des systèmes forestiers. Là, on parlerait plus de systèmes agroforestiers.
Ouais, des forêts-jardins ou ce genre de trucs-là.
Des choses qu'on trouve, mais souvent dans les tropiques, en Indonésie, en Amazonie, des choses comme ça. C'est pas des choses avec lesquelles nos pratiques agricoles sont super à l'aise, vraiment.
Est-ce qu'il y a des arbres sur ta ferme?
Il n'y a pas encore beaucoup d'arbres sur ma ferme. Ça manque. On prévoit avoir des zones de verger, mais on n'a pas encore beaucoup d'arbres. Puis j'aimerais ça qu'on y vienne.
Et l'autre projet aussi, parce que en fait, j'ai eu une image en tête tantôt quand tu m'as parlé de sol forestier. Tu lances ou tu es en train de lancer un projet pour lequel j'ai vu à date quelques vidéos. Mm-hmm. Et dans les premières vidéos d'après la pluie, vous allez chercher du sol en forêt. Et après,
c'est
vous
vrai.
Mélangez avec d'autres terres. Et... dans un genre de vidéo conceptuelle qu'au début, on le regarde et on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Et finalement, tout ça, après la pluie, vous l'avez lancé. Est-ce que c'est lancé? Est-ce que, je ne sais pas,
La pluie, c'est en cours de lancement. Okay. Puis je vais donner le contexte. Après D'accord. la pluie, c'est mon deuxième bébé. C'est mon autre projet. C'est une ferme de cannabis artisanal.
Uh-huh.
Le contexte légal le permet maintenant. Donc, ça m'a autorisé un petit peu à prendre un petit peu de recul par rapport au Jardin du Chat Noir et démarrer ce nouveau projet. Et effectivement, on a fait plusieurs vidéos avec Alex Chabot, qui est un artiste vidéaste de la région. Puis on a voulu inclure en fait le visuel de la forêt là-dedans. Donc effectivement, il y a une scène où je vais chercher du sol en forêt. Moi, ça a toujours été important, le volet sol. Puis je vois en fait une stabilité et une beauté dans les écosystèmes forestiers que j'ai du mal à trouver parfois dans les écosystèmes agricoles qui sont plus en début de succession. Puis donc, je suis toujours tiraillé d'un bord et de l'autre.
Temps, en fait. C'est un peu ça aussi ce que tu disais en termes de maraîchage, c'est qu'à chaque fois, tu recommences tes planches, tu recommences tes semis, tu recommences tes trucs. Parce que
oui, parce
ça,
qu'en fait.
Parce que c'est ça, cultiver des annuels, c'est ça que ça veut dire.
Mais c'est qu'en fait, une grosse partie des plantes qu'on consomme en tant qu'être humain, c'est des plantes annuelles. Donc, ça va être des céréales, ça va être des légumes, ça va être des. Alors, les fruits sont l'exception, parce que les fruits, effectivement, c'est on travaille avec des arbres. Mais les légumineuses, effectivement, comme source de protéines, sont aussi des plantes annuelles essentiellement. Donc c'est ça. Donc, comme on parle de reconstruire des sols, de reconstruire des écosystèmes, c'est important de le reconnaître. C'est que la majorité de notre alimentation vient de plantes annuelles et ça implique bien souvent un travail de sol qui n'est pas propice à la reconstruction des sols.
Et le cannabis, il se situe où dans ta continuité tout à l'heure?
Le cannabis, pour moi, alors cannabis, c'est une plante annuelle aussi. Mm-hmm. La petite variante avec le cannabis, c'est qu'on parle d'une culture qui est beaucoup plus payante que la plupart des cultures agricoles. C'est idiot, mais c'est non, un enjeu vraiment important. Je pense qu'on va être amené à en parler aujourd'hui. Mm-hmm. C'est que l'enjeu financier en agriculture, c'est toujours un énorme défi. Nous, ce qu'on a comme vision pour ce projet-là, c'est d'avoir un projet, alors un projet en biologique, en régénération des sols, mais quand même un projet qui va faire rentrer de l'argent dans l'optique d'acheter des territoires, des terrains en fait, et de les protéger.
Ah, tu fais du weed pour faire des légumes, c'est tellement intelligent.
Ben en fait, pour vrai, je pense que ce serait plus faire du weed pour faire de l'argent pour acheter du territoire pour le protéger.
Waouh.
C'est un peu le. Si je dois le résumer, je pense que je le résumerai comme ça.
C'est tellement un master plan. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. Puis ouais, la rentabilité, c'est ça que tu posais comme question. Ça, c'est peut-être c'est un des freins aussi aux gens qui rêvent d'agriculture, qui rêvent de vivre en campagne. À date, ça a l'air génial, votre histoire. Tu déménages, tu te fondes une ferme, ha, ha, ha. Mais là, il y a tout l'enjeu financier. C'est beaucoup de risques.
C'est énorme. Mégane, est-ce que tu veux en parler?
Ben oui, c'est...
Mégane, en ce moment, a son petit chat sur ses genoux. Ouais. On va peut-être l'entendre. C'est adorable. Mm-hmm. Pardon, je voulais pas te couper. C'est trop cute.
C'est ça, l'enjeu est réel, même pour quelqu'un comme moi qui en effet, j'ai pas eu à acheter mes terres. C'est des terres héritées qui présentement appartiennent à ma mère. Puis quand même, j'ai de la misère à vraiment arriver, amener l'entreprise au point où je pourrais vivre de ma production. Alors, j'ai beaucoup d'empathie puis de compréhension pour ceux qui ont et à acheter leur terre et à bâtir leur clientèle et à faire leur production.
Mais j'ai beaucoup d'empathie pour toi qui a un job et qui a une ferme.
Oui, vraiment.
Est-ce que... Ben, on peut parler d'accès à la terre, mais tu parlais aussi de faire tout ton réseau. J'imagine qu'un enjeu aussi, c'est la distribution. Si les gens... Tu peux faire pousser des légumes ou faire de la viande, mais si les gens n'y ont pas accès, ils ne peuvent pas te l'acheter. Mm-hmm. Comment ça se passe pour vous? Je sais que, Mégane, on s'est rencontrés justement parce que tu distribuais ta viande dans un commerce où je travaillais, qui est vraiment chouette, à mon avis, de pouvoir, dans le village, avoir accès à de la viande qui vient de juste à côté. Là. C'est un peu le rêve, on est privilégié. Comment est-ce que vous vendez dans les épiceries? Comment ça se fonctionne pour des petits producteurs comme vous pour distribuer leurs produits?
C'était ça un des grands défis quand ça commençait à rouler un peu plus ici, puis je commençais vraiment à faire la vente directe dans notre coin. Puis j'ai rencontré d'autres producteurs, ben des productrices dans le fond. Mm-hmm. Puis on a constaté ensemble là, que c'était peut-être l'autre grand défi quand on part en production agricole. Si on veut faire du marché direct, la vente directe, bien, il faut avoir une clientèle. Puis comment est-ce qu'on bâtit une clientèle pendant qu'on fait la production? Puis, tu sais, c'est pas évident. Alors, nous, on a décidé de partir une coopérative justement pour combler ce besoin, ce très grand besoin.
La coop du terroir.
Oui, le terroir solidaire.
Le terroir solidaire, c'est ça. Fait que vous êtes plus... la coop se charge de la distribution.
Et la mise en marché, OK. Ouais. Oui, puis
c'est qui la coop, finalement? Ben, avez-vous des employés?
On est 15 membres. On a une employée qui fait l'administration. Mais les tâches sont quand même partagées entre les membres. Puis l'objectif, c'est de croître la coop en tant d'entreprise pour pouvoir libérer les agricultrices, les agriculteurs, pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur nos productions et ou même de choisir où est-ce qu'on veut s'impliquer exactement dans les aspects qui sont exigés. Alors, il y a du monde qui préfère faire leur transformation. Il y a d'autres qui veulent pas en faire. Puis c'est pareil pour la distribution. Alors,
puis c'est où en ce moment, par exemple, des... Parce que je pense que l'enjeu, c'est que la majorité, finalement, des gens achètent leur nourriture à l'épicerie et se posent pas beaucoup plus de questions. Et si les produits sont pas à l'épicerie, ben, ils achèteront pas. Mm-hmm. T'sais. Fait que où est-ce que vous avez réussi à rentrer, puis comment vous réussissez à rentrer dans les habitudes de consommation? Je pense qu'on peut parler aussi des paniers ensuite, là, qui est comme... qui a changé un peu le mode de distribution, ou en tout cas, qui est une nouvelle avenue. Mais les viandes, vous faites des marchés ou vous faites...
On fait les marchés publics. Moi, je fais pas de vente toute seule, autre qu'à la ferme. Alors, le monde peut venir à la ferme acheter de mes viandes. Sinon, je vends dans les marchés avec les autres membres de la coop. Et J'ai aussi deux restos à Montréal qui achètent ma viande et une bouchère à Montréal aussi.
Cool. Puis, ouais, c'est ça, on parlait de, en termes de distribution, il y a toute la question des paniers. Bon, je pense que les gens commencent à être un peu habitués, mais en gros, l'idée, c'est d'avoir des partenaires puis d'avoir des gens qui commettent ou qui se commettent, ouais, qui s'engagent à partager le risque financier puis à avancer... une partie des sous, puis qui garantit finalement aux fermiers un certain revenu. Là. Vous, mm-hmm. vous êtes embarqué dans ça tout de suite, finalement.
Tout
ça a été votre première, ouais. Votre premier élément de distribution.
Mais toutes les fermes dans lesquelles on avait travaillé pour se former faisaient des paniers. Donc pour nous, on ne s'est même pas posé la question. On est rentré dans le système tout de suite. Puis c'est en fait, ça représente, en ce moment, ça représente à peu près les deux tiers de notre mise en marché. On a un marché public sur la rive sud de Montréal qui a commencé l'année dernière. Le marché de Candiac. Mais avant ça, Amélie et moi, quand on était juste tous les deux, on faisait quasiment que des paniers plus des petites ventes en extra.
Puis là, à deux personnes, vous étiez capable de faire pousser vos légumes, distribuer, aller au point de chute, aller au marché?
La première année, on livrait à peu près 60 paniers par semaine. La deuxième année, on était encore deux avec une stagiaire à temps partiel, puis on faisait 120 paniers, tous les deux.
C'est intense!
Là, cette année, on était rendu... Bon, là, ça s'est brouillé un petit peu parce qu'il y a les paniers plus le marché. On était à l'équivalent de 200 paniers à 3 personnes et demie.
Ça va? Vous allez bien?
C'est une excellente question. L'entreprise va très bien. Ça tire du jus beaucoup.
Ben
beaucoup,
oui,
beaucoup.
Ben je sais.
Parce qu'il faut se le dire, mine de rien, Megan t'en a parlé, le fait d'assurer les ventes en plus d'être agricultrice, c'est énorme parce que l'agriculture, c'est déjà quelque chose qui pourrait prendre une semaine de 80 ou 100 heures pour être bien fait. S'il faut ajouter à ça la mise en marché, on se retrouve avec des grosses semaines, bien évidemment.
Ça ressemble à quoi, votre été?
Ben, on travaille beaucoup. Énormément. Je dirais de fin avril, début mai jusqu'à fin octobre, c'est vraiment intense. Mais c'est surtout qu'en fait, nous, évidemment, on livre à Montréal. Donc, on fait deux allers-retours à Montréal pour les paniers, plus un aller-retour sur la rive sud.
C'est vrai, vous faites deux paniers par
ouais.
semaine.
Donc, je pense qu'on doit faire à peu près 400 km par semaine pour gérer notre mise en marché. Mais c'est aussi le temps qui est alloué à ça. Il faut que l'un ou une d'entre nous, ou même parfois deux d'entre nous, soient présents au point de livraison. On essaye d'incorporer des bénévoles dans l'histoire. On a un point de livraison qu'Amélie fait au complexe des Jardins. En centre-ville où elle a des bénévoles qui viennent l'aider. Donc ça, c'est super parce
ouais.
que ça veut dire que ça ne monopolise pas toute l'équipe.
Ouais,
c'est
ouais,
vraiment
ouais.
très, très important.
C'est... Mais moi, je l'ai fait. J'ai été bénévole
ouais,
pour un
absolument,
peu de
chute.
J'en étais ça pendant 4 ans. Puis hey, moi, je me rappelle le gars ou la fille qui venait, qui était employé de la ferme, qui faisait sa journée de ferme, mm-hmm. qui loadait son camion, qui descendait à Montréal dans le trafic ou whatever, qui faisait ses 3 heures de panier puis qui rentrait à la ferme à genre 9-10 heures. C'est comme grosse journée, là.
Bien sûr.
C'est
ben oui, grosse journée, très grosse journée. Je sais que quand Amélie fait les points de livraison à Desjardins, elle rentre le soir à 10h, 10h30. Mais elle était quand même dans le champ à 7h30, 8h le matin. Donc c'est des choses à considérer parce qu'il y a un certain nombre d'heures dans une journée. Donc, il faut être capable de tout rentrer. Alors évidemment, c'est ce qui nous garantit des ventes directes. Ça, c'est très important en agriculture parce que c'est pas un métier dans lequel les marges sont vraiment très élevées. Je parle des marges de profit. Donc évidemment, limiter les distributeurs et limiter des intermédiaires qui prennent une proportion des profits, c'est aussi ça qui, en fin d'année, fait en sorte que ben, quand on fait une vente, tout l'argent va dans les poches de l'entreprise. Et comme ça, ben après, on paye nos dépenses et on se paye nous-mêmes.
Est-ce que tu penses que les gens, là, je parle vraiment en termes de public puis de consommateurs, disons en ville, mais on pourrait aussi se poser la question pour les gens qui achètent, par exemple, la viande au marché. Est-ce que vous sentez que les gens, ils ont conscience qu'en donnant leur argent à un producteur comme ça, plutôt qu'en achetant un produit en épicerie, par exemple, là, je sais que je varge beaucoup sur les épiceries, là, mais c'est parce que... En tout cas, je trouve que c'est quand même un morceau important de l'alimentation des Québécois. Pensez-vous que les consommateurs, ils ont conscience de l'impact que ça a sur votre qualité de vie, sur votre rentabilité, survie?
Mégane?
Je les regarde.
Ça dépend vraiment de l'individu. Puis je pense que c'est vraiment... Le grand défi, je ne sais pas comment tu te sens par rapport à ça, mais je trouve personnellement que le défi, c'est que tout ce qu'on entend puis ce qu'on voit dans les médias, c'est difficile à avoir vraiment les bonnes informations puis les vrais faits. Alors, le monde entend des choses puis, tu sais, ils ne comprennent pas nécessairement comme il faut parce que c'est
comme
pas
quoi,
clair.
Comme quoi, par exemple? J'ai un exemple récemment que j'ai en tête parce qu'on a enregistré ce podcast-là récemment, mais Louis Robert, l'agronome avec qui je parlais, il parlait de la question des pesticides. Puis quand il y a eu un moment donné, Radio-Canada dit « Ah, il y a des traces de pesticides dans vos légumes, mettons. » Puis là, les gens ont capoté, évidemment. Puis là, les agriculteurs se sentaient super mal parce que, bref, il y a tout un système. Donc, c'est un peu... Est-ce que tu parles de ça, des espèces de... Il y a des flashs, des fois, d'informations par rapport aux pesticides ou à la viande ou à je sais pas quoi. Puis là, ça... C'est mal.
Ouais, oui, mal parmi, reçu. Oui, puis j'aurais peut-être plus. Je parlais plus.
C'est pas grave, on peut revenir après.
Ouais,
si jamais ça devient.
Je l'écris parce que j'ai perdu mon.
Aurélien, les consommateurs, peut-être qu'Aurélien, tu as plus de contact avec les gens qui mangent tes légumes que Mégane, vu que tu fais pas de distribution, mais penses-tu que les gens sont conscients?
En fait, oui, mais ils sont conscients parce qu'on est là. Et parce que justement. J'ai toujours pensé que justement les circuits courts puis le fait de livrer nous-mêmes, c'était une très très bonne opportunité pour nous de sensibiliser les gens à la réalité de ce que vivent les agriculteurs. Moi, je pense vraiment qu'il y a une compréhension de la part des gens, mais elle n'est pas innée, elle ne se fait pas toute seule, elle se fait parce que nous, on parle avec eux. Amélie et moi, depuis le début, on a mis un point d'honneur à vraiment être transparent par rapport à notre réalité quand on parle aux gens. Dans le sens où, évidemment, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent pour un panier, qui viennent nous voir, puis on s'assure de toujours avoir une belle communication sur les sites web, sur notre visuel, sur tout ça. Donc, évidemment, on contribue à créer un portrait qui est très, très bucolique, puis joyeux et trippant, en fait, de notre métier. Mais c'est vrai que beaucoup de gens nous voient arriver, puis pensent qu'on arrive le matin dans le champ avec un panier en osier, puis qu'on gambade en cueillant nos légumes et nos fruits toute la journée, puis que... Bon, à 4 heures, on se pose avec une bière et on regarde le soleil descendre tranquillement vers l'horizon.
La bière, vous la buvez à 7 heures. Je suis déjà à l'arrivée chez vous.
C'est vrai, c'est plus à 7 heures. OK, j'ai essayé. Mais en fait, la réalité, c'est que non, on fait des très, très grosses semaines. Et quand on en parle à nos clients, ils sont en général bouche bée. Et c'est des conversations qu'on a et qui incluent vraiment le nombre d'heures qu'on fait par semaine et notre salaire annuel. Et moi, j'ai pas honte d'en parler avec mes abonnés parce que c'est des gens qui... Je les vois toutes les semaines pendant l'été, donc bien souvent, ça devient des gens dont je deviens proche avec le temps, qui viennent parfois à la ferme pour des visites, puis sur lesquels on a une relation vraiment trippante. Non, ils sont la plupart du temps vraiment surpris du travail qu'on doit mettre et des sacrifices qu'on doit faire pour faire ce métier-là. Et moi, je suis très, très heureux qu'on ait cette opportunité de l'expliquer aux gens parce que c'est très, très important que les gens comprennent que quiconque fait pousser leur nourriture. Et là, je vais inclure des gens en production locale qui font l'effort de comme tu disais, de passer à travers le trafic puis de venir à Montréal pour livrer les légumes. Mais j'inclus aussi là-dedans, les travailleurs des fermes à l'étranger, mettons au Mexique ou au Chili ou ailleurs. Il faut savoir que si les gens ont accès à une nourriture abordable, puis ça va sonner lourd ce que je vais dire, mais c'est vrai, si les gens ont accès à une nourriture abordable, c'est parce que quelqu'un dans la chaîne se fait exploiter et c'est pas mal toujours le producteur
ou la productrice. Le travailleur de champ, là.
Oui.
La raison pour laquelle on a des casseaux de framboise à 3 piastres Driscoll qui viennent.
Et quand ils viennent du nord du Mexique, c'est étrange quand même.
Ouais, ouais.
Donc, et je le dis pas pour essayer de culpabiliser les gens ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il faut reconnaître, puis moi je l'ai découvert en fait finalement en le faisant, mm-hmm. en démarrant une ferme et en rentrant dans le jeu, puis en le faisant vraiment, c'est que notre système économique et la façon dont notre système alimentaire sont conçus ne sont pas bâtis pour favoriser les agriculteurs. Ils sont bâtis pour mettre de la nourriture pas trop chère sur la table, ce qui est normal, les gens n'ont pas accès à des finances inépuisables, et puis aussi accessoirement pour que d'autres dans la chaîne, je pense notamment au réseau de distribution, puissent tirer leur épingle du jeu. Donc, c'est important de le dire sans amertume, sans colère ou quoi que ce soit, mais c'est aussi important de reconnaître qu'il y a une injustice.
Ouais. Mais moi, parce que j'ai grandi ici, puis parce que j'ai toujours travaillé pour des agriculteurs, puis que j'ai un peu toujours vu ça, quand j'avais des colocs qui revenaient, puis qui étaient comme « Hey, j'ai trouvé de la viande vraiment pas chère », je suis comme « Pourquoi tu veux manger de la viande vraiment pas... » Tu sais, pourquoi t'es content que ça t'ait coûté juste 3 piastres ton morceau de poulet? Il me semble que si c'est quelque chose que tu vas mettre dans ton corps, tu devrais être plutôt inquiet. Puis je sais que ça peut, c'est vraiment un discours qui peut sonner privilégié, puis j'ai été quand même étudiante, j'ai été... avec des gens précaires. Puis pour moi, l'alimentation bio, c'était important parce que j'avais travaillé dedans, donc j'avais comme un lien. Puis ça peut sonner privilégié, mais effectivement, quand on choisit des aliments très... Là, je parle de très pas cher, là, d'être content d'acheter de la bouffe vraiment cheap, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pas été payé. Puis il y en a plein, là, des travailleurs étrangers, même au Québec. Là, on n'a pas besoin d'aller au Mexique.
Oui,
il y en a
tout à fait.
En ce moment,
tout à fait, absolument.
Qui sont dans un système où est-ce qu'ils se font exploiter, où est-ce que même le gouvernement le dit, vous venez ici pour travailler pas cher dans des mauvaises conditions, puis vous ne deviendrez jamais citoyen canadien.
Absolument, c'est une réalité.
Le système, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ouais, ben en tout cas, je suis d'accord avec toi parce que je l'ai eu aussi, ce contact-là, même si moi, je cheatais, je n'étais pas dans les champs. Mais les gens sont contents de parler aux gens qui font pousser leurs légumes. Les gens sont contents d'avoir des nouvelles. Puis on n'en parle pas. C'est vraiment, je suis d'accord avec toi. Moi, plus je parle d'agriculture, plus je me rends compte à quel point, à plein de niveaux, c'est pas dans le... On n'en parle pas vraiment. On n'apprend pas là-dessus à l'école.
C'est vrai.
On n'en parle pas dans les médias. On en parle...
Non. Puis je pense que c'est important pour les gens de comprendre que le commerce équitable, c'est pas juste le café et le chocolat.
Ouais.
Puis c'est pas juste des choses qui viennent de l'autre bout du monde. Le commerce équitable, c'est à toutes les étapes. Puis ça inclut des gens qui sont à moins de 60 km du centre-ville de Montréal. C'est vraiment important. Donc, évidemment, nous, ben, on a cette opportunité de sensibiliser les gens, de leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Mais il y a une réalité aussi, c'est
non,
qu'on n'est pas beaucoup d'agriculteurs.
Là, vous avez aussi des semaines à faire. Là.
Mm-hmm, bien sûr. Mm-hmm. Mais on n'est pas nombreux aussi. C'est qu'il y a une responsabilité pour un tout petit nombre d'agriculteurs de nourrir une grande partie des gens. Donc, je veux dire, cette proportion-là, elle a changé avec le temps. Il y a eu une époque où quasiment tout le monde était agriculteur. Maintenant, on est passé dans l'excès inverse où quasiment plus personne ne l'est.
Parce qu'on a des très, très grosses machines puis des très, très gros terrains. Puis...
Entre autres, et puis parce que l'économie a changé aussi. Mmh. Puis ça, c'est des facteurs vraiment super complexes. T'sais, je ne rentrerai pas nécessairement là-dedans. Mais ouais. C'est important de comprendre ça. Puis moi je l'aime, ce volet-là, le côté contact avec les gens, parce qu'il y a des liens à recréer entre ce qui se passe en campagne et de ce qui se passe en ville. Et si ça peut passer par la nourriture, c'est super, parce que c'est un très, très beau vecteur de communication.
Et puis moi, je l'ai entendu de plusieurs agriculteurs, là, c'est ça qui m'a sauvé. Là, une semaine dégueulasse sous la pluie où t'es vraiment triste, mm-hmm. puis il y a beaucoup de fermiers qui vivent de l'isolement. Là, puis le moment où est-ce que tu vas parler à des gens puis qui sont contents, moi, j'ai des familles qui m'ont fait des câlins tellement ils étaient contents le moment où les tomates est arrivées. Tu crées tellement de joie.
Hey, moi, j'ai des enfants qui m'amènent des dessins au point de livraison, c'est quand même cool.
Mégan, j'ai vu que tu as fait une petite liste, c'est par rapport à la distribution ou aux consommateurs, ou t'as-tu retrouvé ton idée?
Non, Aurélien, merci d'avoir... parce que t'as vraiment bien expliqué ça, c'est un peu par là où je m'en allais. Ouais.
J'aimerais qu'on recule encore d'un pas. Où est-ce que vous voyez l'agriculture maraîchère, mettons, puis la viande de pâturage dans à l'échelle de l'agriculture au Québec, mettons, là, tu sais, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un courant? Est-ce qu'on s'en va vers plus, par exemple, de bio, plus de pâturage? Ou comment vous vous situez par rapport à l'agriculture de demain, je veux dire ça comme ça? Ce qui est une très grande question, mais...
Bien, Je sais qu'au Québec, la production bio, c'est en croissance depuis longtemps. Alors, ça, c'est une indication que le monde devient de plus en plus conscient de l'impact de l'agriculture conventionnelle.
Oui.
Ouais.
Le bio, c'est une étiquette parmi plusieurs volets, là, disons. Moi, la viande de pâturage, je trouve que c'est un sujet super intéressant parce que ça nous confronte un peu. Il y a aussi une tendance en ce moment qui est vers le pas de viande du tout. Tu sais, le vegan, aucune consommation animale. Moi, je viens d'un milieu où il y a beaucoup de gens qui font ce choix-là. Parce que, encore une fois, ce que les gens y voient de la viande, c'est les méga super grosses productions puis tous les négatifs qu'on entend par rapport à ça. Puis d'un autre côté, si tu fais des recherches sur le sol vivant, tu découvres qu'il y a des gens qui font des expériences de pâturage qui capte du carbone, qui est une solution finalement pour les problèmes à venir en termes de biodiversité, de qualité des sols et de réchauffement climatique. Puis ça aussi, je trouve que c'est une information nouvelle qui change la donne. Je sais pas si tu veux parler un peu... Est-ce que c'est un mouvement auquel tu t'identifies, l'agriculture régénératrice, l'idée de régénérer... par le pâturage?
Oui, absolument. Puis c'est quand même... C'est sûr qu'on en parle un peu, mais c'est tellement nouveau que le monde, ils savent... Comme toi, t'es au courant, mais le monde en général, ils savent pas de quoi que je parle quand je dis que je pratique l'agriculture régénératrice.
Mais dis-nous de quoi tu parles quand tu parles de
ben
ça.
En effet, c'est tout ce qui comprend des pratiques qui favorisent la santé des sols, puis c'est plus inclusif, c'est plus global dans son approche, puis ça inclut un écosystème diversifié dans le fond. Alors, ça inclut les animaux. Puis le discours dans les médias, ce qu'on entend parler, c'est plus le végé versus... la viande. Alors, le monde comprenne que si je mange la viande, je fais mal, je fais du mal à l'environnement. Puis si je mange des légumes, ben, c'est bon pour l'environnement. Puis en effet, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis les pratiques dans le conventionnel à grande échelle versus les pratiques plus écologiques.
Ouais. Paysanne ou plus petite ou...
Ben, c'est... Oui, mais tu sais, c'est ça l'autre affaire, c'est que pour être écologique puis pour favoriser les sols, ça veut pas nécessairement dire que c'est juste les petites fermes qui vont réussir à être bénéfiques. Il y a beaucoup de monde dans la grande culture qui commence à adopter des pratiques comme vous faites dans vos jardins. Simplement en semant des couvre-sols. Des engrais verts, des choses comme ça, c'est ça. Si on adopte juste des meilleures pratiques, ben ça fait en sorte qu'on n'est pas obligé d'amener des intrants minéraux puis de l'externe. Tout ce qu'il nous faut là pour pousser des aliments nutritifs, c'est déjà là. Il faut juste adapter nos pratiques. Alors que ce soit la production végétale, grande culture ou des petites productions, ou si ça inclut la viande, des animaux, c'est vraiment la gestion de ces êtres vivants puis la gestion des terres qui va faire la différence. Puis c'est très difficile à expliquer ça au grand public.
Oui.
Parce que c'est les sciences. Puis il y a plein de choses qui sont dites dans les médias, des reportages, même des reportages sur des données scientifiques qui sont mal faites. Ouais, puis il y a des études scientifiques qui sont mal faites.
Oui, je sais, je me suis fâchée ce matin en regardant le journal parce qu'il parlait de matière organique recyclée, puis j'étais comme, c'est pas du recyclage, c'est du compost. Mais là, si tu lisais l'article, c'était comme clair, mais dans le titre, je trouvais ça très mélangeant pour le grand public de dire qu'il y avait un tiers des matières organiques qui étaient recyclées, je trouvais, en tout cas. Bref, moi aussi, ça me fâche, des fois, je trouve que c'est... Fait que sur tes étiquettes, toi, qu'est-ce qui est écrit quand tu parles de ta viande, quand tu veux l'expliquer au public, tu dis « viande de pâturage », ferme écologique, je pense que c'est ça.
Ben, je dis, ouais, j'appelle ça l'écologique. Je suis pas vraiment rendue au point où j'utilise le mot régénératrice encore, même si ça commence à être connu, parce que si je dis ça, le monde, ils vont pas savoir de quoi que je parle. Puis je fais, ouais, je fais juste, j'explique au monde comment qu'on fait nos élevages. Puis aussi, on est très transparent dans nos pratiques. Puis le monde peut venir voir comment qu'on fait. Puis je réponds aux questions que le monde peut avoir. Je dis pas que c'est bio, j'ai pas le droit. Mais quand même, t'sais, on explique qu'on adapte des pratiques qui sont et meilleures pour l'environnement et meilleures pour la santé des animaux. Le bien-être animal.
Donc, si tu es un consommateur, si par exemple je suis une consommatrice en ville et que je ne veux pas nécessairement complètement arrêter de manger de la viande ou des produits animaux, qu'est-ce que je cherche comme, comme terme ou comme élément?
Ben, j'espère que bientôt ça va être produit régénératrice.
OK. Super. Parce que, tu sais, je sais qu'il y a un des trucs de désinformation, mettons, c'est les poules en liberté. Là, pendant longtemps, ça a été ça. Ah, le monde sont comme, ben, bien sûr que je veux pas prendre des œufs de poules qui vivent toute leur vie dans des cages puis en étant misérables. Je vais donc faire le choix des poules en liberté. Puis finalement, t'apprenais que c'était en liberté dans un building. Fait que là, il y a comme toute la terminologie. Puis encore une fois, ça revient que si tu parles directement avec ton fermier, il n'y a pas de problème. Mais si tu es à l'épicerie, puis la majorité des gens font quand même encore, achètent leur nourriture à l'épicerie, puis...
Ben, c'est un peu dans ce sens-là que je m'en allais tout à l'heure. Le monde, on comprend certaines affaires à cause des labels, puis les labels ne sont pas très transparents, dans le fond. Puis il faut savoir qu'il faut aller vraiment regarder pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Le mot « naturel », le mot élevé en liberté, ben le label élevé en liberté, même des aliments du Québec, on a l'impression que c'est meilleur, mais à la base, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Alors ça, c'est un bon exemple. Ouais.
Ouais.
Les poulets free range en liberté, ils vont pas dehors.
Non, c'est ça.
Ouais.
Ben, en tout cas, mais alors peut-être que la solution aussi, ça serait pour les gens qui mangent de la viande puis des produits animaux comme des œufs ou quoi que ce soit. Le lait, c'est encore un autre problème.
Mais... le lait au Québec, c'est tout un sujet.
Ouais. Ouais. Ben alors peut-être qu'on se dit, ben on arrête d'en acheter en épicerie, puis je mange juste de la viande puis des œufs quand je peux le trouver du producteur, puis sinon.
Ben il faut faire attention. Moi, il faut vraiment faire attention. Si on veut que l'agriculture change, il faut comprendre qu'il y a des nuances. C'est pas noir et blanc. Alors, si quelqu'un sent que les produits laitiers sont importants pour leur diète, ben, tu sais, ils devraient continuer à consommer, mais en faisant attention de la source. Puis, je crois que la plupart du lait qu'on peut acheter ici, ça vient d'ici. Puis c'est juste en parlant, puis en étant conscient des pratiques, puis en étant patient.
Mais comment tu le sais si tu achètes du lait Chagnon? Comment tu fais pour savoir il vient d'où ton lait, tu sais?
Mais c'est pas juste ça, c'est qu'il faut comprendre. C'est pour ça que c'est vraiment un autre sujet, la production laitière. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes. Ouais. Ce monde-là sont pris dans un système qui a évolué depuis longtemps, puis ils ont pas le contrôle qu'on pourrait penser.
Je vais me trouver un producteur laitier. Moi, je le recommanderais,
puis même moi, ça fait longtemps que je voudrais m'asseoir puis en parler vraiment, parce que je pense que c'est très difficile. Il y a quand même du monde qui ne réussit pas, puis on voit ici un peu la tendance qu'on voit aux États-Unis où les petites fermes, ils ne sont plus capables, ils vendent, puis c'est les gros fermes qui achètent les terres, puis ça fait des méga-fermes.
Exact.
Puis c'est des animaux qui ne vont pas dehors. Puis le bien-être animal dans le tiers, bien, c'est le fait de se bâtir une grange, une grande aréna avec un bon footing. Puis les animaux, ils sont capables de se promener en liberté dans une grange. Puis tout autour de la grange, c'est de la maïs puis le soya.
Ouais.
Alors, il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais ça va prendre du temps. Mais c'est pas en abandonnant nos agriculteurs qu'on va y arriver, parce que il faut juste leur donner le temps de trouver les pratiques puis de trouver un moyen de transitionner.
Les agriculteurs, j'ai l'impression, ils ont envie d'aller vers ça. En ce moment-là.
Ça dépend. C'est très compliqué. Il faut comprendre que dans le conventionnel, le fait de faire une transition, ça peut être difficile, surtout quand on n'est pas trop sûr comment procéder. Mm-hmm. Alors, il y a du monde dans le MAPAC, il y a des agronomes, puis, tu sais, il y a du monde qui commence à comprendre ce que ça peut prendre pour faire ces changements, puis amène ses connaissances aux agriculteurs. Alors, si on parle de la grande culture, tu sais, il y a des choses comme les cover crops, même l'implantation d'espèces vivaces dans les champs. Il y a vraiment des choses intéressantes qui peuvent se faire, qui peuvent améliorer la santé et l'écosystème du sol.
Mais il faut que les agriculteurs soient accompagnés, en fait. C'est un peu ça que tu dis, parce que faire la transition, c'est compliqué, c'est des risques.
Il faut qu'il y ait une certaine ouverture. Mm-hmm. Mais il y a toujours le problème économique. Alors, je pense que la solution, c'est que, il faut que tout le monde travaille ensemble pour vraiment regarder, pour vraiment voir comment qu'on peut faire pour transitionner, pour que ça nuit pas à l'entreprise. Puis même pour que ça puisse apporter plus comme une meilleure rendement ou une meilleure...
Prenons un exemple que je connais un petit peu, puis Aurélien, toi, je pense que vous l'êtes, certifié biologique. La certification biologique, est-ce que c'est quelque chose qui, à terme, améliore la rentabilité d'une ferme? Si elle fait, par exemple, quelqu'un qui voudrait faire le choix d'aller vers le bio, il y a des coûts en amont. Mais finalement, est-ce que... notre système actuel de certification écologique, de biologique, par exemple, au Québec, ça améliore vraiment, disons, la qualité de vie ou des... Si on prend pas en compte l'aspect écologique là, du bio, qui est meilleur pour les écosystèmes, là. Qu'est-ce que t'en penses? Comment ça s'est passé, votre processus?
Mais nous, on fait partie du réseau des fermiers de famille, qui était autrefois géré par Équiterre, puis maintenant qui a été pris par l'AKP, dernièrement, en fait.
Mm-hmm. La coopérative d'agriculture de proximité écologique.
C'est exactement ça.
Parce que des fois, je veux pas dire des acronymes dans le podcast que les gens, ils savent pas.
Non, bien sûr, mais tu fais bien, en fait. Tu fais vraiment bien. Dans le fond, nous, on fait partie d'un réseau qui exige la certification biologique. Donc, mm-hmm. C'était même pas vraiment une question. On a eu une petite période de grâce au début parce qu'on était en pré-certification biologique. Donc, on était en train de faire les démarches, mais il ne s'était pas encore passé assez de temps sur le terrain pour qu'on puisse vraiment dire qu'il soit biologique. Maintenant, on l'est. Mmh. Oui, c'est du temps et de l'argent parce que la certification nous coûte un certain montant basé en général sur la superficie.
OK, et puis, c'est comme à chaque année un permis, genre?
Oui, en fait, c'est chaque année. Si tu veux, là, il y a des organismes qu'on appelle des certificateurs. Donc, il va y avoir Écocer, Québec Vrai, Procer, toutes sortes de compagnies privées ou publiques. Non, pas public, excuse-moi, oublie
non,
ça.
Privé,
mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a différentes formes. Québec Vrai est une coopérative, puis Écocer, c'est un autre type de structure. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mmh. C'est plus que... donc, ce sont des gens qu'on paye pour qu'ils viennent, en fait, inspecter nos pratiques, inspecter notre ferme et marquer vraiment sur papier qu'on respecte les normes de l'agriculture biologique. Donc, évidemment, c'est du temps. Je pense que moi, ça me prend à peu près 3-4 jours de papier par année, plus... la visite de la ferme elle-même et le suivi de dossier après. Et puis, donc, c'est des coûts, c'est plusieurs centaines de dollars associés à ça. Donc, évidemment, c'est une contrainte. Il y a toujours une conversation récurrente dans l'agriculture biologique que j'ai toujours avec plein de gens qui disent que, en fait, on devrait pas payer pour la certification parce qu'on, en fait, on paye pour démontrer qu'on fait une agriculture qui est plus propre, entre guillemets.
Moins polluante,
alors qu'on serait intéressé de voir un système où finalement, quand on utilise des produits chimiques, on devrait payer un premium pour. Bref, je suis pas loin de penser ça. Ce serait intéressant aussi un contexte où peut-être la certification biologique, au moins le volet financier est pris en charge.
Et remboursé, ouais.
Ou remboursé. On a des services conseils du ministère de l'Agriculture qui sont remboursés. On a des programmes de subvention. Ce serait intéressant d'avoir ça. Mais il faut reconnaître qu'on a quand même eu des soutiens du ministère de l'Agriculture pour faire la transition vers le bio. On a touché de l'argent parce qu'on faisait la démarche. Donc, je n'irai jamais jusqu'à dire qu'on n'est pas accompagné. Mmh. La charge de travail qui vient avec et la dépense qui vient avec, c'est des choses qui viennent avec la façon dont notre entreprise fonctionne.
Mais la certification, après, vous avez des légumes bio, puis là, est-ce que ça améliore, comme je disais, je vais pas dire la rentabilité, mais c'est une plus-value finalement.
Bien sûr, c'est une plus-value, parce que c'est aussi une explication qu'on n'a pas besoin de fournir. Quand les deux premières années, quand on n'était pas encore certifié, quand les gens nous demandaient « est-ce que vous êtes bio ?», on disait « non, mais… » Puis après, on rentrait dans les explications. Maintenant, quelqu'un me demande, je réponds « oui ». La conversation s'arrête là, les gens sont rassurés. Il faut savoir que c'est ça une certification essentiellement, c'est une espèce d'assurance pour les consommateurs parce qu'ils te connaissent pas vraiment, qu'ils peuvent pas visiter ta ferme, t'es pas leur voisin, ils connaissent pas tes pratiques, donc c'est comme une sorte de, c'est une assurance pour eux.
Mmh.
Je sais pas si ça répond à ta question.
Qu'est-ce que ça veut dire? On vient de parler pendant un moment déjà. On peut conclure, mais je trouve ça intéressant parce que j'étais en voiture récemment avec un monsieur, puis il m'a dit un truc que j'ai trouvé tellement drôle. Il était là, il était représentant pour des produits transformés biologiques en épicerie. Donc, il s'assurait que les épiciers placent les produits écologiques, biologiques. Puis il était comme, il y a des gérants d'épicerie qui sont comme, ça marche pas, ça, ou ça fonctionne pas, ou c'est pas vrai, genre, ou ça veut rien dire, ou tu sais, une espèce de phrase de.
Comme si la certification voulait rien dire, en fait, tu veux dire.
Ouais! Puis il dit, mais le bio, ça fonctionne pas. Mais je suis comme, qu'est-ce qui est supposé fonctionner?
Ça veut pas dire grand-chose.
Clairement, ça voulait dire que les gens savent pas qu'est-ce que ça veut dire du bio.
Ben, c'est aussi compliqué, hein.
C'est compliqué, ouais.
Je pense que pour certains, leur sentiment vers le bio a changé. Puis je crois que c'est à cause qu'il y a du monde de la grande industrie qui sont rentrés influencer les standards de certification un peu. Puis je sais pas au Québec jusqu'à quel point que ça influence. Je pense que l'impact est moins vu au niveau du maraîchage, mais je pense que peut-être dans les grandes productions puis les grandes cultures que ça...
Tu veux dire c'est mieux vu maintenant ou moins bien vu?
Non, je pense qu'il y a du monde qui ont perdu confiance un peu.
C'est jamais des normes absolues. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges qui, je peux l'expliquer un petit peu. Dans le fond, nous, le fait d'être en bio veut dire qu'on n'utilise absolument pas de fertilisants d'origine chimique ou de pesticides chimiques. Ça, c'est vraiment les grandes lignes. Mmh. On a aussi d'autres éléments comme la rotation des cultures, comme l'utilisation d'engrais verts. Il y a plein de pratiques comme ça qui sont en fait des bonnes pratiques, vraiment, qui sont incluses dans le cahier des charges. Et moi, dans l'ensemble, je trouve que le cahier des charges est pas mal. Est-ce que je suis d'accord avec tout? Non, bien sûr, évidemment. Il y a des éléments qui pourraient être un petit peu plus drastiques. Il y a des éléments qui pourraient l'être un petit peu moins. Je pense à ça parce qu'on utilise des produits... puis ça, c'est des vraies conversations encore qui ont lieu entre des maraîchers, entre des agriculteurs. On a certains intrants, certains fertilisants qu'on va utiliser où on pourrait tout à fait débattre de leur justification de les avoir dans les normes bio. Nous, on utilise beaucoup en début de saison comme une source d'azote ou en début de culture, des petites granules de fumier de poulet qui sont une source d'azote extrêmement pratique à utiliser, extrêmement efficace sur le moment. Bon, ben ça, ça reste du caca de poule ou de poulet industriel qui a été ensuite, parce que pour eux, évidemment, comme ils ne sont pas dans des systèmes durables, les excréments de leurs animaux sont en fait plus qu'une ressource à réutiliser ailleurs, comme ça devrait l'être dans un cycle. Pour eux, c'est un déchet, c'est un problème, c'est quelque chose en trop. Donc, il y a des industries qui ont été créatives et qui ont dit, ben, nous, on va vous en débarrasser, on va les cuire, les sécher, les déshydrater et les vendre à d'autres. Et ça, c'est inclus en bio. Donc, nous, on se retrouve à racheter des produits qui viennent de l'industrie conventionnelle.
J'en ai déjà distribué, ça, c'est comme de la petite poudre un peu.
Ça peut être sous forme de poudre, des fois, c'est sous forme de granules et tout. Donc évidemment, c'est des conversations qu'on a entre nous de bon, alors ça, certains d'entre nous l'utilisent, mais il y en a certains d'autres qui sont absolument pas d'accord sur le fait que ça devrait être en bio. Et honnêtement, les deux arguments ont du sens. C'est pas quelque chose qui est tout noir ou tout blanc, ça reste complexe. Il y a des histoires aussi, par exemple le fait d'être en bio, d'avoir des serres chauffées au propane. Est-ce que le propane doit être inclus dans la conversation par rapport au biologique? Est-ce que oui? Est-ce que non? Puis on va trouver vraiment tout le spectre d'avis dans le milieu des gens qui sont en bio et pas en bio.
Faire des fraises toute l'année.
Ouais, non, c'est...
Mais même l'emballage à l'épicerie des produits
absolument.
Bio, là, ça c'est un des...
Absolument. Et c'est ça en fait, c'est est-ce qu'on... Jusqu'où on va dans ces normes?
Sont sur-emballés.
Oui, mais c'est parfois. Ça. Parce qu'on nous dit, il ne faut pas que ça touche à d'autres trucs, donc on les emballe dans du plastique.
C'est ça le raisonnement?
Je sais pas si ça va jusque-là nécessairement, mais effectivement, je veux dire. Et après, le truc, c'est qu'il faut savoir ça, c'est que mine de rien, des normes, donc biologiques ou autres, mais on parle des normes biologiques, elles sont toujours créées dans un contexte. Mm-hmm. Elles ne viennent pas de nulle part. Si tu vas aux États-Unis, par exemple, c'est rentré il y a quelques années, c'est possible maintenant de faire du bio avec un label bio en hydroponie. Pour moi, est une hérésie, aussi pour beaucoup de producteurs, mais c'est passé dans les normes. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec tous les aspects de toutes les normes de tous nos pays? Je ne sais pas.
Parce que les normes, finalement, c'est un choix politique. J'imagine qu'il doit avoir quelqu'un, un moment donné, qui a décidé
Mais
ça,
oui,
ça
parce que c'est des compromis, en fait, entre des aspirations. qui sont évidemment, là, comme on parle du bio, des aspirations écologiques, mais aussi une réalité économique, puis après, bah, des groupes de pression. Mm-hmm. Il y a quelques années, quand l'Europe a décidé d'harmoniser son système de certification biologique, je me rappelle que les agriculteurs en France, les agriculteurs bio, étaient très, très inquiets parce que ce qui allait se passer, c'est que les normes de certification biologique allemande allaient être un petit peu les normes dont on allait se servir pour bâtir la certification biologique de tous les pays européens. Mais c'était des normes qui étaient un petit peu plus, un peu moins restrictives en fait que d'autres. Mm-hmm. Donc il y avait des agriculteurs bio en France qui eux étaient hyper inquiets à l'idée que leurs normes bio soient finalement diluées dans des normes plus lousses et que donc elles veuillent plus vraiment rien dire. Et ça, donc c'est à chaque fois qu'il y a des normes qui sont établies. Je sais que là, les normes en ce moment pour la certification bio au Canada sont en train d'être révisées. J'ai entendu certains éléments, j'ai pas tout entendu. Honnêtement, je sais pas dans quelle direction ça va.
Mais est-ce qu'on peut dire, parce que là, on va s'enligner vers une conclusion, est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, au Québec, si t'achètes des choses qui sont certifiées biologiques, t'as quand même une... ça donne une certaine certitude qu'il y a des choses que
quand même.
Ouais, en termes de pesticides...
Oui, ce serait complètement faux de dire que ça veut rien dire, le bio. Mm-hmm. Okay. Ça, ce serait vraiment, vraiment faux. Ce serait surtout pas vraiment comprendre les enjeux, je dirais.
Ouais. Cool. Ben, c'était super. On a passé par plein de chemins.
C'est vrai.
Je suis vraiment contente d'avoir pu discuter avec vous un peu de légumes. Et
ben, merci à toi. C'était super le fun.
J'avais eu une belle idée pour une belle fin, bien ficelée, mais elle m'est aussi sortie de la tête. Je pense que je vais terminer ça là. Merci beaucoup.
Merci Alice.
Cet épisode a été produit par Pirate Productions grâce au soutien du programme Jeunes volontaires d'Emploi Québec. À l'animation et au montage, Alice Lefebvre. Au soutien technique, Jean-Christophe Lalonde. À la musique, Julien Dumont-Boudria. Et les illustrations sont de Gwenaëlle Guyot. Pour nous contacter ou écouter d'autres épisodes, rendez-vous sur pirateproduction.ca.